Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de votre voyage.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les relations familiales sont faites d'échanges, de transmissions, de respect, d'attentes, mais également de brouilles et de disputes. Et à l'adolescence, ces tensions peuvent se multiplier et se traduire aussi bien par le silence que par l'écrit. Et dans les deux cas, c'est un moment difficile à traverser. Le jeune se sent incompris quand un projet est critiqué par les parents avant même d'avoir été exposé, quand une relation est dénigrée, quand une opinion est contredite. L'adulte peut ressentir une forme de mépris, avoir l'impression que ni sa personne ni ses valeurs ne sont respectées. La communication déraille dans l'excès, l'émotion ou dans l'absence, le retrait, incompréhension, colère, blessure. Dans quelle mesure l'adolescence constitue-t-elle un moment à part pour ces relations entre les différentes générations? Comment expliquer les blocages? Et surtout, c'est ce que nous verrons avec les questions de nos auditeurs, comment dépasser ces désaccords? Une crise en famille peut-elle se dénouer en famille ou faut-il faire intervenir un tiers? Le temps est-il un allié pour renouer le dialogue ou faut-il agir au plus vite? Nous vous donnons la parole au 33 1 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Renouer le dialogue entre les générations après une période de crise. Pourquoi certains sujets conduisent-ils systématiquement à des crispations? Y a-t-il des méthodes pour réengager une relation familiale équilibrée? Avec nous en studio, Dana Castro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne à Paris et vous avez signé le livre « Petit silence et petit mensonge, le jardin secret de l'enfant » aux éditions Albin Michel. Comme chaque mois, elle réagit et échange en direct dans Priorité Santé. C'est vous, Adja Idrissaba, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Ravie de vous retrouver, Adja, chroniqueuse, étudiante, membre de l'ONG Equipop et du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et en fin d'émission, nous donnerons la parole au docteur Siméon Nanama, conseiller régional nutrition UNICEF au bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre. On parlera de ce concours ouvert à la jeunesse, l'Hackathon, organisé par les agences des Nations Unies. Objectif, rechercher des solutions innovantes dans le cadre de la lutte contre la malnutrition des jeunes enfants. Les projets, les candidatures sont en train d'être sélectionnés et les lauréats seront primés en septembre à Dakar et nous y serons.
Priorité santé sur RFI.
Alors Dana Castro, la communication entre les générations, un vaste programme et on sait pourquoi ça devient, tout devient en fait, on a l'impression, plus compliqué entre les parents et les enfants à l'adolescence, parce que c'est vrai, avant il y a les cris, il y a ce qu'on appelle parfois les caprices, il y a les envies des petits-enfants, mais ça se passe plutôt bien, mais il y a vraiment des années qui sont des années pivots et parfois même des années conflits.
Disons qu'avant l'adolescence, la relation est très asymétrique entre les enfants et les parents. Les enfants sont formatés, ils savent qu'ils doivent obéir aux adultes qui savent mieux qu'eux ce qui est bien pour eux, globalement. Mais à l'adolescence, comme il s'agit vraiment d'une quête d'identité très forte pour l'adolescent, la relation devient beaucoup plus égalitaire, c'est-à-dire que le jeune commence à avoir, ou la jeune, des opinions propres, des envies propres, un jugement critique beaucoup plus important que lorsqu'il était enfant. Et donc, ce déséquilibre, finalement, d'une relation qui convenait bien aux parents, puisque c'était les chefs de famille et c'est eux qui commandaient, est assez déstabilisante pour eux et assez angoissante pour les enfants, parce que dans le manque de communication, tout le monde souffre.
Et justement, en cas de désaccord, il y a évidemment plusieurs postures possibles. Faire beaucoup de bruit, hein, on va dire à la latine, à l'italienne ou à la française, ou à l'inverse, pas du tout, le silence. On se retranche dans une forme de mutisme, Dana Castro. Dans tous les cas, les personnes impliquées, pour certaines, souffrent. En tout cas, elles sont confrontées à des émotions très puissantes.
Oui, elles sont confrontées à des émotions très puissantes qui sont dominées, on va dire, par deux, la colère, de ne pas être pris en considération et validé de part et d'autre, tel qu'on est. Et puis l'anxiété, que va-t-il se passer avec moi, dirait le jeune, ou que va-t-il se passer avec lui et avec nous, diraient les parents. Il y a une troisième voie également, faire du bruit ou ne rien dire et faire en douce.
Mmh. Oui, des c'est aussi des choses qui sont propres à toutes les générations, mais particulièrement à certaines. Oui. Justement, quand il y a cette crise, chacun est persuadé finalement, au moins au début, que l'autre se trompe, hein, qu'il a tort. Ça vaut aussi pour les crises familiales d'Anna Castro. L'adolescence sent incompris. Et c'est vrai qu'en situation de crise, c'est difficile de s'arrêter pour poser les choses à plat et un petit peu essayer de comprendre d'où ça vient. On est dans le tumulte, dans le tonnerre, et on ne peut pas vraiment avoir ce recul qui pourrait être tellement utile.
Une crise ne se résout jamais en temps de crise, on va dire, parce que chacun, à un moment donné, les gens ne savent même plus pourquoi. Disons que les émotions prennent le dessus et les gens rentrent dans une forme de bras de fer où ils n'entendent que des parties du discours qui vont renforcer finalement leurs convictions. Alors, une crise se résout soit par la prévention, soit en amont, soit après, quand tout le monde est calmé, à condition qu'il y ait vraiment la volonté d'aller se calmer et de revenir plus détendu pour reprendre la discussion. Mais si elle est reprise à l'identique...
C'est ça, c'est quand on est dans le feu de l'action, des fois on a envie de convaincre. Finalement, ça ne fait que réalimenter la crise.
Convaincre, c'est ça le problème. C'est que lorsqu'on veut convaincre, ça donne des éclats et ça donne des conflits très forts.
Adja Idrissaba, est-ce que vous avez l'impression que les crises entre parents et jeunes, ça fait partie de la vie, c'est presque normal? Ou est-ce que vous connaissez par exemple des camarades pour qui tout se passe bien en famille? C'est vraiment l'ouverture, le dialogue, c'est une bonne communication?
Eh bien, j'ai envie de répondre à cette question en reprenant une formule universelle qui nous dit que la communication est un facteur clé de la réussite de toute institution. Et si déjà dans cette institution, c'est la communication est importante, c'est aussi réciproque dans la famille. Et donc les parents, aujourd'hui, j'en connais, oui, malgré, c'est tellement minime le nombre de parents aujourd'hui qui se comprennent avec leurs enfants à travers la communication, parce qu'ils acceptent d'écouter leurs enfants, ils acceptent de... d'écouter leur avis, il y a le droit à la liberté d'expression qui est
coupé par la ligne téléphonique qu'on va retravailler tout de suite. On va retrouver Adja, bien sûr, pour échanger. C'est un petit peu compliqué quand on appelle de loin et qu'on essaye d'engager le dialogue. Mais on va écouter un premier témoignage, un premier auditeur en ligne, puisque bien sûr, c'est vous, hein, les jeunes auditeurs qui faites l'émission aujourd'hui. Sur le répondeur de l'émission, c'est Frédéric. Il est lycéen au Togo et il nous explique ce qui bloque à la maison. Et là, on peut même parler d'un vrai sujet tabou. On écoute Frédéric.
Bonjour, Priorité Santé. Bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Ekpon, élève au lycée de Hiatro au Togo. Le problème chez moi est qu'il est difficile, voire interdit d'évoquer tout ce qui a trait avec la sexualité. Dès que mes parents entendent un enfant parler d'amour, soit on est puni, soit on est privé de petit déjeuner. C'est inconcevable cette situation. Pire encore, je n'ai pas le droit de me retrouver avec une camarade de sexe opposé. C'est une véritable tension par enfant. Que faire? Merci.
Alors Adja, on vous a retrouvé en ligne. Je m'apprêtais justement à vous poser cette question qui nous lie directement avec l'intervention de Frédéric. C'est vrai qu'il y a des sujets, on va dire, tabous, des sujets qui fâchent. On imagine bien lesquels, et Frédéric l'a très bien énoncé. C'est non seulement la sexualité, mais c'est même simplement la relation fille-garçon, à la limite en toute honnêteté, avoir des copines, des camarades du sexe opposé, ça pose problème. Et c'est vrai, Adja, qu'on entend souvent ce type de témoignage.
Mais bien sûr, j'en connais beaucoup de personnes comme Frédéric qui ont les mêmes problèmes dans leur famille parce que tout simplement, on a ce petit complexe de comprendre que deux personnes de sexe différent peuvent être des amis ou peuvent réussir ou peuvent avancer ensemble sans qu'il n'y ait des doutes. En fait, on a toujours des doutes. Les parents ont du mal justement à percevoir cela, c'est tout côté positif qui peut exister parce qu'ils ont démissionné grâce à leur responsabilité. J'ai envie de dire aujourd'hui que tout cela arrive parce que tout simplement, simplement, les parents refusent de parler, par exemple, de l'éducation à la sexualité à leurs enfants. Et le pire, ils essayent de raccourcir la solution en interdisant, par exemple, les relations amicales ou certains sujets importants à leurs enfants. Et ça, c'est de les priver de leur droit, en fait. Donc, malheureusement, on manque cette ouverture. Et il faut justement sensibiliser pour que Frédéric puisse avoir sa liberté dans sa famille et qui qu'il puisse aborder tous les sujets qu'il faut, mais avec ses parents, parce que sinon, le risque est qu'il peut aller chercher des informations ailleurs et tomber en fait dans un piège où c'est les mauvaises informations qu'il risque de percevoir. Et si les parents démissionnent, mais après, le risque sera pire que ce qu'ils ont voulu empêcher, en fait.
Dana Castro, là, on entend exactement ce fait que les parents traitent Frédéric comme, on va dire, comme un bébé. Tu es privé de nourriture si jamais tu as une amie, IE, ou si jamais tu vas avec une camarade du sexe opposé. Là, ça va très loin.
Ça va très loin et c'est considéré comme une bêtise. Mais enfin, dans ce que nous dit Frédéric, si on se demande pourquoi les parents réagissent comme ça, pourquoi ce haro se dénie finalement des intérêts normaux, finalement, de leur fils, je crois que la réponse est un peu l'anxiété, c'est-à-dire l'anxiété pour ceux qui pourraient se passer, oh là là, mais s'ils se retrouvent avec une fille, qu'est-ce qui va se passer? Et ils imaginent tout de suite une catastrophe absolue. Peut-être d'anxiété pour eux parce que, est-ce qu'ils vont être mal vus dans la communauté, etc. Donc vraiment, ce qui prime, c'est l'anxiété. Mais on a constaté que la punition ou l'interdiction ne résout jamais les problèmes parce que, n'oubliez pas qu'on a parlé de la troisième solution.
C'est agir en douce.
C'est agir en douce et parfois c'est...
C'est pas l'interdit qui va empêcher, on le sait pour de nombreuses choses.
Non, c'est pas l'interdit qui va empêcher. Alors, que faire dans cette situation? Je pense que c'est préparer... D'abord, il faut se préparer à l'affronter. En aucun cas, ne pas aller... à l'abordage avec un sentiment, avec des émotions très aiguës. Et se demander comment est-ce qu'on peut parler à ses parents. Et là, les mots qui me viennent, c'est vraiment le respect, c'est-à-dire accepter leur point de vue et la notion de réassurance. Je comprends que ça vous inquiète beaucoup, je comprends que vous imaginez qu'il peut m'arriver des choses, je comprends que votre responsabilité est engagée, mais voilà qui je suis et à quoi je m'engage.
Est-ce que vous conseilleriez, par exemple, à Frédéric de poser la question à ses parents? Papa, maman, dites-moi de quoi vous avez peur précisément.
Oui, c'est ce que j'allais dire également. Je pense que pourquoi c'est aussi difficile, inquiétant dans la famille, ou en tout cas chercher des informations sur l'origine finalement.
En même temps, des fois, il y a des parents qui coupent court à la conversation, qui vont dire bah, « moi, de mon temps, on n'en parlait pas, ce sera pareil pour toi », et puis c'est tout.
Mais c'est toujours une information supplémentaire.
Ouais.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre, comme on disait tout à l'heure, ou de partir à la guerre, mais qu'il va falloir faire un pas en arrière, se calmer et voir comment on peut les aborder autrement, en les observant bien.
Parce qu'on disait tout à l'heure à Jaïdrissa Ba, d'une génération à l'autre, évidemment, les choses ont changé, l'information a changé. Il y a aussi ces groupes de jeunes qui se mettent ensemble pour mieux informer, sensibiliser les autres jeunes. Ça aussi, ça peut vraiment être une solution pour Frédéric.
Adja. Oui, bien sûr. Je donne l'exemple du club des jeunes filles que nous avons mis en place en Guinée. C'est un espace qui permet justement à des jeunes qui n'ont pas accès à des informations, par exemple, sur la sexualité, de se renseigner. Donc, ce qui leur manque, par exemple, dans leur famille et les questions qu'elles aimeraient poser à leurs parents et qu'elles n'arrivent pas, peut-être parce qu'il y a un tabou qui existe, il y a un mur qui est là. Et là, elles se sentent beaucoup plus libres à échanger avec nous, leurs camarades de même génération et tout. Et on en parle autour de la table. Donc, c'est ce genre de groupe qui existe dans les écoles. Il y a des groupes d'élèves qui existent dans les écoles aussi, qui abordent ce genre de sujet. Et ce que j'encourage d'ailleurs, il faut aussi les parents démissionner, si les parents ne savent pas encore, il faut que la nouvelle génération en fait reprenne leur destin à main. Et comment? Il faut que nous-mêmes, que nous sachions que nous avons le droit à cette information, nous avons le droit aussi de nous épanouir, mais il faut que nous aillons à la recherche de cette information et n'attendons pas à ce qu'ils viennent vers nous, parce que ces personnes qui doivent nous informer n'ont pas compris qu'ils ont le devoir justement de nous en informer.
Dana Castro, on disait tout à l'heure, ces groupes justement qui permettent d'avoir une meilleure information, parce que le risque aussi, c'est quand on dit non, je te dirai rien, c'est qu'on aille chercher des informations et qu'on tombe sur n'importe quoi.
Je pense que ces groupes ont beaucoup d'importance justement pour la construction, encore une fois, de l'identité, parce qu'elles, en partageant l'information, en se retrouvant avec des pairs, finalement, la question taboue est dédramatisée. Et c'est vraiment très important. Et ça ne pour le jeune, de savoir que c'est quelque chose de normal, que tout le monde ressent pareil, qu'il y a des pères, beaucoup de ces pères qui ont les mêmes problématiques et ressentent.
Et qu'il y a des risques qui existent vraiment.
Et bien entendu, voilà. Qu'il y a des risques, mais en tout cas, ça ne devient pas une catastrophe,
absolument.
En tout cas, une culpabilité envahissante qui va produire d'autres problématiques plus tard.
Alors, on va voir, il y a des sujets qui fâchent, il y a aussi des projets qui fâchent. C'est ce qui s'est passé pour Salimatou de Ziguinchor au Sénégal. Elle nous raconte comment tout de suite, comment son engagement communautaire a d'abord été très mal perçu par ses parents.
Bonjour, je m'appelle Salimatou Bouarou, étudiante en LEA, langue étrangère appliquée à l'université Hassan Seck de Ziguinchor, Sénégal, volontaire à Déclic. En 2019, j'ai voulu intégrer Déclic. Mais en discutant avec mes parents, ils étaient un peu pas d'accord, je dirais. Mais quand même, ça ne m'a pas empêché de continuer et de faire ce qui me passionne, car j'ai toujours été animée par le développement. C'est quelque chose qui m'anime, le développement de mon pays, de ma commune aussi. Donc j'ai continué. Et maintenant, on voit les résultats et je suis très fière de moi, contente. Et aussi, je sais qu'ils sont fiers de moi, même s'ils ne l'expriment pas très souvent. C'est le message que je lance à tout jeune, qu'ils peuvent exercer leur passion, exercer les choses qu'ils veulent tout en étant vrai avec soi-même, en se disant que je suis sur la bonne voie, tout en respectant aussi la décision des parents, on peut exercer ce qu'on veut. Et je suis très honorée de partager avec vous sur ce sujet. Et merci beaucoup.
L'art du compromis, hein. On entend Salimatou d'Anna Castro qui a tenu bon pour aller au bout de son projet, de sa passion, mais qui dit « dans le respect ». Après coup, ses parents semblent avoir compris. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aimerait bien des encouragements aussi de ses parents. C'est-à-dire que quand ça va bien, bah, tout n'est pas normal en fait quand ça va bien. Les enfants ont aussi besoin, pas simplement quand ils apprennent à marcher, qu'on leur dise « c'est bien, tu marches », mais quand ça marche dans leur vie d'ado, ils ont aussi envie qu'on reconnaisse leur petite victoire de tous les jours.
Absolument. Et ça s'appelle dans notre langage la validation. Ils ont vraiment besoin d'être validés, encouragés, motivés, entraîner à donner le meilleur d'eux-mêmes à l'adolescence et puis quand même à tous les autres âges.
Alors, on ne sait pas comment elle a fait exactement Salimatou, Hadja Idrissa Ba, mais en tout cas, elle a tenu bon cette persévérance dans le respect. Ça veut dire que c'est un petit peu l'art de jouer sur deux cordes. Hein.
Oui, mais bien sûr, en fait, je comprends le sentiment qu'a Salimatou, parce que mener en combat... au sein de sa communauté. D'ailleurs, c'est plaisant, c'est un grand effort en fait que tu fournis, parce que déjà avec la communauté, peut-être qu'il n'est peut-être pas pour ton combat et tu as besoin d'un soutien, un support. Voilà pourquoi je pense qu'elle a démontré qu'elle a besoin justement du soutien de ses parents et de sa famille pour qu'elle ait plus d'énergie. Parce que partant de, par exemple, mon expérience, j'avoue que ce n'est pas aussi évident de savoir que tu mènes un combat ailleurs et que tu n'as aucun soutien. Parce que si tu mènes un combat pour une invitée et que cette invitée n'est pas forcément d'accord avec toi et que tu ne sens aucune énergie positive venant vers toi, tu as le sentiment de ne pas être peut-être sur la bonne voie. Et si quelquefois tu ressens que oui, tu es toi-même, tu as confiance en toi, voilà pourquoi c'est important. Je le dis souvent, quand les parents communiquent, échangent avec leurs enfants sur le projet et qu'ils les encouragent, ils leur redonnent encore plus confiance et ils leur permettent de beaucoup plus travailler et d'être beaucoup plus persévérant dans le projet. Salimatou peut-être aurait mieux fait si elle avait encore un support, un soutien de sa famille, elle se bat toute seule. Donc, peut-être qu'elle serait le double, en fait, de ce qu'elle fournit aujourd'hui. Donc, moi, j'invite tous les parents, justement, d'accompagner leurs enfants. Et une Salimatou qui se bat pour sa communauté, c'est une vie qui fait ce qu'elle veut et qui apporte quelque chose pour le développement de son pays. Donc, on a besoin des millions de Salimatou en Afrique, des millions de Salimatou dans le monde qui s'engagent et qui ne reculent face à rien, face à aucune pression, mais aussi face à aucune intimidation. Donc, même si on a le soutien de personne, lorsque tu crois en ton projet, fonce et ne t'arrête pas.
Alors, on encourage les parents à encourager, hein, c'est bien ça. Par contre, c'est vrai que des fois, c'est le blocage. Et puis, on va avoir l'ado ou le jeune, pas forcément dans ce genre de contexte, mais dans peut-être des contextes plus européens, l'ado qui revient et qui insiste, ça tourne à l'obsession. Et c'est vrai, d'Anna Castro, il y a vraiment des approches, des comportements, des émotions presque différentes en fonction des milieux, des zones géographiques, des cultures. Dans telle famille, une demande sera jugée complètement normale, quand ailleurs, ce sera carrément un choc pour les parents.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est un des arguments des ados qui viennent demander à leurs parents ce qui se passe dans d'autres familles. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas ou en tout cas ne veulent pas s'inscrire dans la culture familiale. En général, c'est extrêmement difficile à ce moment-là. La communication est bloquée parce que, comme vous disiez tout à l'heure, tout le monde croit avoir raison. Et là, l'émotion première, c'est la frustration chez le jeune. Pourquoi les autres et pas moi? Et à la fois l'inquiétude et la colère chez les parents, voire même un sentiment d'impuissance, car comment lui faire comprendre que chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe?
Mais même des fois, ça s'installe dans quasiment à bas bruit. Et un jour, on se réveille, on se rend compte que la communication est coupée, on ne sait plus comment revenir en arrière.
C'est vrai. Mais quand on fait cette prise de conscience, c'est vrai qu'on se pose la question de « et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, on peut continuer comme ça. Si c'est parfois, les gens continuent un peu comme ça parce qu'au fond, c'est confortable quand il n'y a pas de communion. Enfin, toute proportion gardée.
Moins de cris, mais plus de silence. Mais il y a des moments où ça devient angoissant.
Et plus d'inquiétude. Ouais, voilà, d'inquiétude. Mais pour en revenir, je pense qu'il y a deux piliers. Le premier, c'est le désir de revenir, la motivation de revenir. Et vraiment, dans mon expérience, tout le monde a envie de revenir, aussi bien les ados que les parents. La question est comment. Et donc, le deuxième pilier, c'est de se préparer à ce retour de la communication, chacun de son côté. Et là, on se pose la question de l'objectif, pourquoi je veux absolument rétablir la communication et si c'est le cas, comment. Et quand on se pose la question comment, d'accord, donc j'ai envie de revenir dans la communication, eh bien, on se repose, en tout cas, on s'appuie sur ce qu'on connaît du caractère des parents ou du caractère de l'ado, parce que finalement, et parents et ados se scrutent à longueur de journée, donc ils ont quand même une connaissance d'eux-mêmes. Dans mon expérience, c'est souhaitable que ça soit à peu près et quand c'est possible, toujours les parents qui reviennent parce qu'ils ont tout de même cette hauteur de vue.
Et ça dépend des milieux parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on entend plutôt des gens qui sont dans le compromis, Adja Idriss Abba, mais la rupture, elle peut être extrêmement brutale hein, puisque le jeune peut être tout simplement, carrément, on va dire, chassé de la maison.
Oui.
Et là, il y a l'impact psychologique, Adja, et même physique qui peut être extrêmement sévère.
Oui, mais évidemment, le plus souvent, ça se termine comme ça, alors que les parents démissionnent. À un moment donné, ils démissionnent même à garder ou à percevoir cet enfant comme les leurs. Et ils sont prêts à les renier pour tout bon ou pour quelque temps. Et après, ils sont dans le regret, justement, de revenir avec cet enfant. Parce que si vous laissez en tant que parent, un enfant se rebeller, lui pousser jusqu'au bout du mur, et cet enfant se rebelle contre vous, c'est le risque que vous avez évité pendant des temps, pendant un moment, c'est le risque de perdre l'enfant pour tout bon. Moi, j'en connais des exemples. Je connais des filles qui ont été chassées de chez elles parce que tout simplement, elles ont eu un enfant hors mariage, elles ont fait une quelconque bêtise, en fait, et qui sont chassées pour tout bon et qui sont régnées. Mais pourtant, c'est possible de réparer cela et de ne pas abandonner cet enfant à elle-même, en fait, parce que ce qui a manqué, elle est gardée où le bas blesse, parce qu'il se trouve que cette fille, elle a des petites sœurs. Lorsque vous faites la même bêtise, et que la même bêtise se répète, vous risquez de perdre toute votre famille et tous vos enfants en les chassant dehors, en fait. Donc, malheureusement, c'est toujours la solution, en fait, que les parents cherchent à trouver. Et c'est des formes de sanctions et qui n'est pas encouragée. Moi, j'encourage les parents d'être dociles, de ne pas aller à la fond avec leurs enfants, et c'est-à-dire les écouter et de leur faire entendre, justement, leurs raisons. Et après, chercher à équilibrer les différents avis. Parce que l'avis de l'enfant compte, c'est pas parce que c'est un enfant que... en fait, souvent, les parents ont du mal justement à accepter ce décalage qui existe entre les deux générations. C'est-à-dire leur génération qui ont vécu une situation, alors que nous, notre nouvelle génération, avec toutes les tendances qui existent aujourd'hui en 2022 et tout, ce n'est pas la même chose. Ils ont du mal à accepter ce décalage et justement d'accepter que oui, on a notre vie à vivre et nous devons être épanouis. Nous ne devons pas dépendre d'eux et de leurs décisions. Nous devons être libres de prendre nos propres décisions.
Et c'est un peu ce que reprend comme idée Benny Aurel, hein, qui est un jeune auditeur de Bujumbura. Il dit « Chez nous, les parents n'ont jamais tort. Peu importe leurs agissements, l'enfant est toujours fautif à leurs yeux. Personnellement, je me rappelle avoir eu des démêlés avec mes parents et pour y mettre fin, il m'a fallu les approcher, bien qu'il était évident que c'était moi l'innocent. » Enfin là, c'est son point de vue. Ça se défend d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, des jeunes qui ont envie d'être entendus. On va poursuivre notre échange. Ce sera juste après ce titre de Beyoncé, Break My Soul. On se retrouve juste après.
There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
Motivation.
I'm gonna find me a new foundation.
Priorité santé sur RFI émission. Jeunes auditeurs bien communiqués en famille à l'adolescence, mais pas seulement, incompréhension, disputes, brouilles. Comment renouer le lien après une crise? Toujours en ligne avec nous, Adjaï Drissaba, étudiante, membre du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et avec nous en studio, Dana Castro, psychologue clinicienne à Paris. Dana Castro, on parle de cette réconciliation. Évidemment, quand on retourne vers l'autre, il faut savoir ce que l'on attend. Parce qu'on n'est plus au sommet de la crise, on a peut-être d'ailleurs baissé un certain nombre de prétentions.
Oui, exactement. Il faut savoir ce qu'on attend. Et je crois que l'attente première, c'est de pouvoir se reparler. C'est-à-dire, avant d'obtenir... si on part avec l'idée qu'on doit obtenir absolument ce pourquoi la crise a commencé, je pense qu'elle peut se répéter à l'identique.
Donc... Ça veut dire qu'un conseil, ça peut être par exemple de partir sur un autre sujet complètement différent.
C'est partir sur un autre sujet, oui, utiliser une méthode un peu indirecte. Après, chacun réagit comme il peut, mais soit revenir, partir sur un autre sujet, peut-être un peu plus anodin, et attendre le bon moment pour aborder la question qui fâche. La deuxième idée, c'est que lorsqu'on aborde après cette crise la question qui fâche, il faut vraiment l'aborder différemment. Encore une fois, si on l'aborde de la même façon, avec la volonté de convaincre, avec la volonté d'imposer son point de vue, avec l'argument que les autres c'est comme ça et chez nous c'est pas comme ça, comme je disais tout à l'heure, la crise va se répéter à l'identique et ça va encore plus fatiguer tout le monde émotionnellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aborder la question autrement ? Ça veut dire que peut-être on peut poser des questions, comme vous disiez tout à l'heure, de pourquoi c'est si difficile d'accéder à ça. Ou peut-être on peut raconter des histoires positives sur la question. Tiens, quelqu'un, comme nous a dit Salimatou, quelqu'un a milité et l'a beaucoup réussi. Avec toujours l'idée que nous avons besoin de rassurer les parents dans le respect.
Ça veut dire par exemple aussi donner des exemples positifs
autour
de nous.
Des exemples positifs,
ouais, ça,
et je dirais
ça
que
rassure.
Ça rassure, et je dirais que le troisième R du respect, la réassurance, ça serait la réussite. C'est-à-dire de montrer comment on peut finalement être bon et respectable dans ce que l'on fait.
Alors un autre témoignage tout de suite, on retourne en Casamance.
RFI à Ziguinchor, 87.6 FM.
Avoir le droit de vivre ses rêves et de mener à bien ses projets, c'est ce qu'essaie de faire Astou. Pour elle, pas question de renoncer.
Salut, je m'appelle Astou Bayam. Je suis de nationalité sénégalaise, élève au lycée Guinéabo de Jigenshor. J'ai voulu abandonner l'école pour aller faire la couture. Mais mes parents ne m'ont pas laissé le choix. Et c'était un peu difficile pour eux aussi de me payer la scolarité. Mes parents ne m'ont pas laissé le choix. Et pour ne pas les déstabiliser, je suis obligée de continuer l'école. Mais je ne peux pas baisser les bras. Peut-être un jour, ils vont me comprendre. Ce n'est pas aussi facile avec les parents parce qu'on peut vouloir faire cela et eux, ils voient que c'est les études qui sont beaucoup plus utiles que d'exercer un métier. Ce que j'ai à conseiller mes camarades, si on a des rêves qu'on veut exercer dans la vie, qu'on y croit, qu'on ne se décourage pas.
Alors, on entend bien cette jeune fille, Adjaï Trissaba, encore un exemple de compromis. On a beaucoup de jeunes, finalement, qui respectent beaucoup leurs parents dans cette émission, mais malgré tout, qui gardent bien leur petite idée en tête. Hein. C'est pas parce qu'on reste dans la famille qu'on abandonne ses projets. Adjaï, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous. J'admire tellement la manière de parler de cette jeune fille parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et mais malheureusement, elle sait qu'il y a un obstacle. Et si son père ou ses parents pouvaient l'entendre, ils auraient compris que peut-être ils ont fait le mauvais choix pour leur enfant. Et cette fille aurait pu réussir lorsqu'on la laisserait exercer son métier encore mieux qu'à l'école parce qu'elle se sent obligée. On entend dire qu'on l'oblige à aller à l'école. Donc, elle se sent obligée. Malheureusement, elle ne peut même pas aller en avant avec ça. Et donc, ça revient à la même chose qu'on disait tout à l'heure. Il faut que les parents acceptent, malgré que, oui, de notre côté, nous, la nouvelle génération, c'est vrai, on a du mal des fois de faire comprendre à nos parents ce qu'on veut. Il faut savoir où toucher pour avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir en criant, en sursautant sur ses parents pour dire, moi, je décide de faire ça, je décide de faire ça. Non, il faut aller tout doucement, de manière douce, de la manière dont nous demandons aux parents d'être doux avec leurs enfants. C'est comme ça, nous aussi, à notre tour, on doit faire nos demandes et savoir leur parler et pour leur faire changer d'avis et être de notre côté. Donc moi, j'inviterai cette jeune fille à le faire avant que ça ne soit trop tard.
Continuer dans ses projets d'Anna Castro. C'est vrai qu'aussi on entend Astou qui prend en compte l'investissement familial et qui considère pas que finalement ses parents agissent contre elle, mais que ils ont pas vraiment d'autres moyens d'être comme un peu comme tout le monde et en tout cas vouloir qu'elle continue d'aller à l'école.
Oui, et comme elle dit si bien, elle ne veut pas les déstabiliser. Donc là, c'est la notion de respect qui intervient, mais elle nous dit aussi que les parents se sacrifient d'une certaine façon pour la faire aller à l'école. Donc ça veut dire qu'elle a compris le sens que les études prennent pour les parents, que pour les parents justement ce sacrifice doit aller jusqu'au bout pour leur propre satisfaction d'être des bons parents et elle a compris tout ça. Mais vu ce qu'elle conseille aux autres, je suis sûre qu'elle va réussir.
Mais en tout cas, elle pourrait être une couturière diplômée.
Elle pourrait être une couturière diplômée et ça lui servira de toute façon.
De toute façon. Comme ça, si elle veut se réorienter ensuite, elle en aura les ressources. On va tout de suite donner la parole à Dominique maintenant. Lui aussi, un projet professionnel bien particulier, mais effectivement, il y a pas mal de préjugés. Dominique a tenu bon avec une grande force de persuasion. On écoute son message.
Bonjour, moi c'est Dominique Gomis, lycéen au lycée Guinéabo Bassin de Jigenshor, en même temps volontaire à Déclic. Et je suis active au mouvement religieux en étant servant d'hôtel. Pour moi, mon rêve était de devenir quelqu'un d'important, par exemple faire la pâtisserie. Parce que c'était un rêve pour moi, voir les femmes de ma communauté travailler à travers la pâte, la farine. Tout ça, ça me passionnait. Ça me donnait une joie au cœur, ça me faisait vivre. Mais à une période de ma vie, mes parents étaient trop méfiants parce que ici, c'est une chose qui est trop féministe en fait. Et je les ai convaincus que faire la pâtisserie, c'est pas seulement les femmes qui doivent le faire, en fait. et je leur ai montré des preuves. Par exemple, à l'anniversaire de ma mère, j'ai fait un gâteau pour elle et puis elle a apprécié. Mais le problème était de plus en plus avec mon père. Il était un peu trop réticent, disant que voilà, c'est trop féministe. Et je lui ai montré des vidéos des chefs pâtissiers et des cuisiniers aussi. Et à ce jour, j'aimerais faire la pâtisserie et je conseille à tout jeune et à tout enfant de suivre ses rêves tout en restant dans la même logique, de ne pas désobéir à ses parents, de respecter tout ce qu'ils veulent et de montrer ce qu'ils veulent faire autrement et non pas par la violence. Merci.
Et sortir des clichés, hein, on entendait bien tout à l'heure Dominique qui disait que ben, dans son entourage, on considérait que la pâtisserie, c'était une activité féminine et pas pour les hommes. En tout cas, lui, il a choisi la diplomatie pâtissière. Ça marche. Hein. Offrez-moi des gâteaux et je vous dirai oui. Dana Castro, c'est vrai qu'on habite tous avec des préjugés. On est tous entourés de préjugés. Et parfois, pour les dépasser, ben, Dominique, lui, il a choisi la persuasion, pas la confrontation pour aller au bout de son rêve.
Oui, et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai cru déceler dans le récit de Dominique la notion de respect par rapport à ses parents, la notion de réassurance, regardez tous les grands chefs pâtissiers qui ont réussi et qui sont connus, et puis la question de réussite par ce gâteau qu'il a offert à sa maman et qui lui a montré qu'il a tout à fait l'étoffe d'un grand chef.
Et voilà, en tout cas, il y a les meilleurs arguments. Oui. Adja Idrissaba, là encore, il n'a pas claqué la porte, hein, il n'a pas choisi la confrontation. Et donc, il est même allé avec des preuves. C'est ça que je trouve excellent dans son histoire, c'est qu'il est allé avec des preuves en disant « Regarde, ça marche ». Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'inviterais, c'est parfait ce qu'il a fait, je l'inviterais encore d'éviter de parler de son rêve dans le passé. J'ai envie qu'il dise, j'ai envie qu'il rétire.
Et la ligne est contre nous. Mais c'est bien d'avoir intégré tous ces projets à ce présent et dire maintenant qu'il est dans un projet qui va réussir, puisqu'en plus, a priori, d'après son témoignage, il a reçu justement un message positif de la part de ses parents, Dana Castro.
Oui. Ça a l'air, en tout cas, que ses parents ont accepté l'idée d'envisager autrement la question et ils ne sont plus aussi catégoriques qu'ils auraient pu l'être au tout début.
Encore
donc,
une
c'est
fois,
une victoire.
La preuve dans cette émission que le compromis, ça marche.
Oui.
Alors, on a vu que les sujets qui fâchaient, il y avait la sexualité tout à l'heure, les projets d'études, les projets de profession. Dans le cas de Tchapo, Togo, c'est un tout autre sujet tout aussi essentiel qui est au centre de tensions familiales. C'est la religion. On écoute Tchapo.
Bonjour Caroline, moi c'est Daré Tchapo. Je suis élève en classe de seconde au lycée de Yatro, Togo. Le problème qui m'oppose à mes parents, surtout ma mère, est celui de la religion. Ma mère est fervente chrétienne. Pour elle, il est hors de question de faire des remises en cause. Nous avons eu quelques échanges où j'ai dit clairement que la religion constitue de vraies entraves pour le développement de l'Afrique. Là, je suis traité de propos blasphématoires, car bon nombre ici n'ont espoir qu'à Dieu. Je vois que cette divergence d'opinion sur la religion m'isole de ma mère. Elle avait associé une année mon échec en classe de 4e au fait que je ne suis pas chrétien. Les dimanches de leur retour de l'église, on se regarde en chien défaillance. Je voudrais savoir si la religion est aussi imposée aux enfants en France.
Alors, sur cette question de différence en famille, et même de différent à cause des croyances, de la vision, notamment hein, pour ce témoignage de Tchapo par rapport à sa maman, Dana Castro, la situation est vraiment difficile. Hein.
La situation est très difficile parce que chacun veut convaincre l'autre de sa bonne foi.
Si c'est le cas de le dire. Mais en plus, là, sur les croyances religieuses, on touche des choses extrêmement délicates.
Oui, on touche des choses extrêmement délicates et on ne peut que, dans ce cas-là, entendre le point de vue de l'autre. La croyance est une croyance, donc on y adhère même s'il n'y a pas de preuves, même si ça va à l'encontre de ce qui se passe vraiment dans la réalité. C'est ça le.
Oui, mais quand c'est le fondement de tout le fonctionnement et que, y compris quand on dit, ben, si par exemple tu as raté tes études, c'est parce que finalement tu avais une attitude qui était un petit peu hostile envers ma croyance, là ça va loin et ça peut mettre beaucoup de choses en cause.
C'est sûr, ça peut mettre beaucoup de. Mais vous voyez que là-dedans, il y a à la fois l'explication, donc la croyance est aussi une explication. Et le remède. C'est-à-dire, si tu te remets dans le droit chemin, ça va mieux marcher en classe. Oui, c'est très difficile, mais encore une fois, pour moi, il est important que chacun vraiment accepte le point de vue de l'autre, même s'il n'est pas d'accord.
C'est vraiment la notion de tolérance.
La notion de tolérance est d'accepter la différence.
Et ça, c'est un message qui est parfois très complexe à faire passer, parce qu'on peut aller parfois jusqu'à la rupture. Est-ce que parfois, même vous en consultation, il y a des cas, quand on vous raconte des relations familiales, des situations de tension extrême, où vous dites finalement, oui, là, la séparation, la rupture, c'est quelque chose qui s'impose. Parce que depuis le début, on dit, on va en quelque sorte mettre de l'eau dans son vin, aller se réconcilier, essayer d'apaiser le compromis, la négociation. Mais est-ce qu'il y a des cas où là, on a dépassé les bornes et faut arrêter?
Oui, absolument. Et c'est même ce qui est conseillé.
La violence. En cas de relation violente.
La violence peut être un cas. La non-entente ou la critique permanente, chacun le ressent. Mais pour les enfants, en tout cas ce que j'entends, à un moment donné, c'est une question de survie. Ils ont besoin de se protéger. Et à ce moment-là, les liens sont rompus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rompus à jamais.
C'est ça.
Mais à certains moments, il est vraiment important que les armées en présence se retirent.
Et est-ce que ça veut même dire que cette rupture peut être source d'apaisement dans certains cas?
Oui, c'est ce qu'elle doit être. Elle doit être source d'apaisement parce que ça veut dire que l'escalade a été trop importante.
Tout à l'heure, on parlait justement de cette période pilier, de cette période clé de l'adolescence. Est-ce qu'il y a aussi toute cette problématique parce que finalement, la notion d'intimité a du mal à passer pour les parents et finalement ils refusent de voir cet adulte en devenir qu'ils sont eux-mêmes. Et peut-être même, je vais plus loin, ils ont peur que l'enfant fasse les propres bêtises qu'ils ont été tentés de faire quand ils avaient son âge.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit aussi dans son enfant un tout petit peu de soi-même. Et donc d'où vient l'anxiété? L'anxiété des parents vient de ce qu'eux, ils ont vécu, de leur propre souffrance qu'ils projettent finalement sur leurs enfants. Elle vient aussi du monde ambiant qui n'est pas très gai en ce moment, mais disons que la source première, en tout cas la plus proche d'eux, c'est peut-être leurs propres expériences négatives. Mais là, c'est vraiment ne pas connaître l'enfant, car l'enfant est un être extrêmement résilient.
Et l'exposition au risque, justement, on revient un petit peu, on boucle la boucle. Tout à l'heure, on disait des sujets tabous. Malgré tout, ne pas nier qu'il existe des risques, mais trouver le bon ton pour en parler.
Oui, et finalement, dans tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant dans l'émission, le dialogue, à quoi sert le dialogue avec les parents ? À faire réfléchir tout le monde. Donc c'est ça l'idée. L'idée de négocier, d'apporter le gâteau, de montrer des choses, ou bon, enfin tout ce que les auditeurs nous ont dit, a amené à réfléchir, j'espère.
Et ne pas rester toujours campé sur sa
position. Et ne pas rester
crispé,
absolument.
Voilà. Merci à tout le monde pour cet échange. Merci à toutes les deux. Grand merci pour votre participation à Priorité Santé. Adja Idrissa Ba, en dépit des problèmes de communication. Un grand merci à vous, bien sûr, Dana Castro. Et un remerciement tout particulier à l'équipe de Déclic de Ziguinchor. Déclic et ses jeunes volontaires engagés pour le développement communautaire. Remerciement aussi qu'on adresse au club RFI Togo, créé par le grand frère Isaac Doufflet, dans le village de Iéatro. Et tout de suite, on va partir pour le Sénégal. L'Hackathon, c'est un rendez-vous, un événement, des initiatives au service de la nutrition des enfants. Alors le lancement, c'est dès à présent pour un palmarès, cette décision du jury qui est attendue à la mi-septembre. On en parle avec vous. Docteur Siméon Nanama, bonjour.
Bonjour Madame Caroline Paré.
Vous êtes conseiller régional nutrition pour l'UNICEF, du bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre. On parle donc de l'Hackathon. Quel est l'objectif de cet appel à projet ?
L'Hackathon est une initiative du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui vise à engager les jeunes dans une réflexion autour de solutions pour adresser la problématique de malnutrition dans notre région. Comme vous devez probablement le savoir, c'est une région où il y a beaucoup de malnutrition et environ 29 millions des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance. Par ailleurs, seulement un enfant sur 10 dans cette région a une alimentation qui est suffisamment équilibrée pour lui permettre d'avoir une croissance optimale. Et paradoxalement, cela arrive dans une région qui est quand même assez riche en termes de production alimentaire, notamment les légumineuses, les fruits, les légumes, etc. Et on a pensé donc que si on engageait les jeunes dans la réflexion autour de la transformation de ces produits pour les rendre disponibles pour les jeunes enfants, ce serait une approche viable pour régler le problème de malnutrition. Et par ailleurs, on voudrait aussi que les jeunes s'engagent dans des idées innovantes pour nous permettre de communiquer et de promouvoir la consommation des aliments locaux par les jeunes enfants pour lutter contre la malnutrition.
Alors on comprend bien que tout ça s'appuie sur un constat sanitaire, hein, qu'il y a des améliorations en vue. On a compris aussi que vous vous adressez aux jeunes. Alors justement, pourquoi les jeunes pour ce type d'initiative santé ?
Les jeunes, parce que c'est quand même la nouvelle génération qui a de plus en plus des idées assez innovantes. Et nous avons pensé que les impliquer d'une part dans la réflexion autour de la nutrition est une bonne option, mais aussi de pouvoir profiter de leurs idées, de leurs innovations, est une approche qui peut nous permettre de trouver des solutions, parce que ça fait quand même assez longtemps que la problématique de malnutrition dans cette région se pose. On a tenté des solutions et c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une seule solution qui marche, et donc nous ouvrons cette initiative aux jeunes pour pouvoir profiter de leurs idées.
Et ils sont sensibilisés à ces problématiques, les jeunes. C'est vrai qu'il y a énormément de clubs de jeunesse, de groupes de jeunes garçons ou de jeunes filles leaders. Et ça, c'est quelque chose qui les motive ?
Oui, nous pensons que les jeunes, ils sont motivés, ils sont assez sensibilisés à la problématique de la malnutrition dans la région, parce que l'UNICEF dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a une politique de plus en plus délibérée pour d'implication des jeunes dans notre programmation. Donc, par ce canal, il y a beaucoup de jeunes qui ont été exposés aux problématiques qui touchent les femmes et les enfants dans la région, et en particulier à celle de la malnutrition.
Alors, vous attendez donc des projets qui vont inclure les bonnes pratiques, tant sur le plan alimentaire qu'environnemental, hein, pas de gaspillage, essayer de consommer local. Et avec quelles échéances, docteur Siméon Nanama, quelles étapes pour l'évaluation jusqu'à ce que le jury se réunisse ?
Le processus a été lancé. Nous sommes à l'étape où nous sommes en train de recevoir les projets. Et ensuite, lorsque nous aurons reçu tous les projets, le jury va se réunir. On a un jury qui est constitué de plusieurs compétences. Ça comprend bien sûr des gens, des experts dans le domaine de la nutrition, des représentants des différentes universités. Il y a aussi l'ambassadrice de l'initiative qui est Prisca Gilbert, la chef ivoirienne qui est souvent sur RFI. On a une influenceuse, Maëlle Akapo, chef pâtissière. On a des représentants des jeunes. On a une représentation du secteur privé, notamment les finances. Et bien sûr, on a une représentation des institutions sous-régionales telles que la CDAO, l'UMOA, etc.
Donc, ça veut dire que ça se prépare en juillet. Vous allez sélectionner les projets. Et puis ensuite, il y aura la réunion du jury pour un verdict, pour un palmarès. Quelle date ?
Le dénouement final aura lieu entre le 19 et le 23 septembre de cette année, ici à Dakar. Et c'est là que les lauréats seront connus et les résultats finaux seront dévoilés.
Et nous leur ouvrirons le micro, hein, puisqu'on se donne rendez-vous avec RFI. On sera à Dakar, puisqu'on est partenaire de cette initiative. On sera sur place, hein, pour rencontrer, voir ces lauréats, découvrir leurs projets surtout. Ce sera vers le 22-23 septembre à Dakar. On vous remercie infiniment, hein, docteur Siméon Nanama, pour toutes ces explications. Et maintenant, on dit bonne chance aux lauréats. Et merci à l'équipe, à c'est tous à Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, 7e vague de Covid, les contaminations qui repartent à la hausse en Europe avec les sous-variants d'Omicron. On parlera des réponses sanitaires et de l'évolution de la pandémie de coronavirus. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de votre voyage.